on.
Dans la lumière froide d'un matin d'automne, de minuscules gouttes d'eau s'accrochent à une toile d'araignée. C'est la rosée.
Revenons à la poésie française. Jean-Yves Lebon nous livre ici une nuée de poèmes. Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir, merci. J'ai la voix un peu couverte, je m'en excuse d'entrée de jeu. Donc j'espère que j'ai ni trop bafouillé, ni trop me casser la voix sur ces quelques textes. Alors dans un premier temps... les nuages, ça évoquait quoi ? Pas grand-chose. La poésie que je préfère, c'est une poésie plutôt solaire. Et immédiatement, quand même, ce texte de Baudelaire, un petit texte publié dans le Spleen de Paris, donc c'est un recueil de poèmes en prose, c'est le premier d'ailleurs, ça s'intitule « L'étranger ». Qui aimes-tu le mieux ? Homme énigmatique dit. Ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis? Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie, j'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté, je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. L'or? Je le hais, comme vous haïssez Dieu. Et... qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? J'aime les nuages qui passent là-bas, là-bas, les merveilleux nuages. Et puis à côté de ça, j'ai aussi un souvenir de gamin. Là, j'étais, en cinquième, quatrième peut-être, en cours d'anglais, et on avait étudié un poème de Shelley dont je ne me souviens absolument pas. Que j'ai pas vraiment cherché à retrouver d'ailleurs. Je me souviens juste du dernier vers, qui là aussi parle de nuages. Ce dont je me souviens, c'est And the sky beyond them, like eternity. Ce qui signifie à peu près quelque chose comme Et le ciel par-delà les nuages, comme l'éternité. Ouais, voilà. Pour moi, la poésie, c'est ça. C'est le fait d'amener une idée sur une image. Alors, continuons à chercher à penser à des poèmes sur la brume, les brouillards, toutes ces choses un peu qui évoquent un peu le romantisme, qui n'est pas ce que je préfère en littérature. J'ai cherché quelque chose qui pouvait un peu tourner autour de ça, mais en même temps, avec une certaine distance, un peu d'ironie, un peu. Alors j'ai pensé à Verlaine et un texte extrait des Fêtes Galantes. Alors là, la précision de la métrique, de la mise en mots de l'idée, donne une précision quasi métronomique, plein de balancements, de rappels, de retours, qui structure vraiment comme une épure, ce qui, par ailleurs, évoque des choses un peu vagues et brumeuses. Ça s'intitule « Promenade sentimentale ». Le couchant dardait ses rayons suprêmes, et le vent berçait les nénuphars blêmes, les grands nénuphars entre les roseaux tristement luisaient sur les calmes eaux. Moi, j'irai tout seul, promenant ma plaie, au long de l'étang, parmi la soleil, où la brume vague évoquait un grand fantôme, laiteux, se désespérant, et pleurant avec la voix des sarcelles, qui se rappelait en battant des ailes, parmi la soleil où j'irai tout seul, promenant ma plaie. Et les pèlins seuls des ténèbres vint noyer les suprêmes rayons du couchant dans ces ondes blêmes et les nénuphars parmi les roseaux, les grands nénuphars sur les calmes eaux. Enfin, pour clore et pour rester dans l'idée de poète un peu dandy, feuilletant un petit recueil un peu au hasard hier soir, je suis retombé avec plaisir sur un texte de Paul Morand où il évoque un autre grand écrivain, tout de précision aussi, non pas de brume, mais quand même qui est un écrivain de la nuit. Donc de Paul Morand, l'ode à Marcel Proust, un poème de 1915. Ombre. Né de la fumée de vos fumigations, le visage et la voix mangés par l'usage de la nuit. Céleste, avec sa rigueur douce, me trempe dans le jus noir de votre chambre, qui sent le bouchon tiède et la cheminée morte. Derrière l'écran des cahiers, sous la lampe blonde et poisseuse comme une confiture, votre visage gît sur un traversin de craie. Vous me tendez des mains gantées de filocèle. Silencieusement, votre barbe repousse au fond de vos joues. Je dis, vous avez l'air d'aller fort bien. Vous répondez, cher ami, j'ai failli mourir 3 fois dans la journée. Vos fenêtres, à tout jamais fermées, vous refusent de vouloir Haussmann, rempli à plein bord, comme une auge brillante, du fracas de tôle des tramways. Peut-être n'avez-vous jamais vu le soleil? Mais vous l'avez reconstitué, comme le moine, si véridique que vos arbres fruitiers dans la nuit ont donné des fleurs. Votre nuit n'est pas notre nuit. C'est plein de lueurs blanches, des cattleyas et des robes de dette, des cristaux des flûtes, des lustres et des jabots tuyautés du général de Fauberville. Votre voix, blanche aussi, trace une phrase si longue qu'on dirait qu'elle plie. Alors que, comme un malade sommeillant qui se plaint, vous dites qu'on vous a fait un énorme chagrin. Proust, à quelle raout allez-vous donc la nuit pour en revenir avec des yeux si là et si lucides? Quelle frayeur à nous interdite avez-vous connue pour en revenir si indulgent et si bon, et sachant les travaux des âmes et ce qui se passe dans les maisons, et que l'amour fait si mal. Était-ce de si terribles veilles pour que vous y laissâtes cette rose fraîcheur du portrait de Jacques-Émile Blanche, et que vous voici ce soir, pétri de la pâleur docile des cires, mais heureux que l'on croit à votre agonie douce de dandy gris-perle et noir. Merci.
Merci à vous, Jean-Yves. Notre reporter Nathalie a enquêté pour nous sur le Titanic, dont le centenaire du naufrage est ce week-end.
Ce week-end marque le centenaire du naufrage du Titanic, ce paquebot transatlantique britannique. Il était connu comme le plus grand, le plus luxueux, également le plus fiable des navires jamais construits. Et rappelons que c'est lors de son premier voyage de Southampton à New York via Cherbourg et Cobb en Irlande qu'il heurta un iceberg le 14 avril 1912 à 23h40 heure locale avant de couler le lendemain. 15 avril 1912 à 2h20, au large de Terre-Neuve, sur la côte atlantique de l'Amérique du Nord. Environ 1500 personnes ont disparu, ce qui fait de ce naufrage l'une des plus grandes catastrophes maritimes. L'épave n'a été localisée qu'en 1985. En septembre, elle gît désormais à 3843 mètres de profondeur, à 650 km de Terre-Neuve.
Malheureusement, Nathalie est mauvaise en maths, ce n'est pas le 100e anniversaire, mais le 104e anniversaire. Restez à l'écoute de Radio On, on revient dans quelques minutes pour la suite de notre enquête Brouillard, nuage, brouillage. Vous découvrirez dans quelles circonstances le Titanic a fait naufrage en 1912. A tout de suite.
Vous aimez l'art? Vous voulez soutenir un projet artistique? Vous souhaitez voir le travail de jeunes artistes? Venez découvrir les vitrines d'Art dans le vide, cette fois-ci consacrée à la photographie. Pendant tout le mois de mars, de jeunes artistes exposent dans les vitrines en centre-ville du Mans. Le vernissage aura lieu le 12 mars à 14h, avenue Général de Gaulle, dans l'ancien magasin Atmosphère. Pour plus d'informations, consultez notre site web artdanslevide.fr et suivez les actualités sur notre page Facebook Art dans le vide. Rendez-vous le 12 mars à 14h, avenue Général de Gaulle, à côté de la place de la République. Je vous rends la tienne.
Et maintenant, l'horoscope du mois.
Et si Radio On n'était pas Radio On?
Et si Radio On était un tabouret?
Et maintenant, l'horoscope du mois.
Poissons. Le brouillard, le marasme, le chaos. Voilà ce qui résumerait à peu près votre état d'esprit. La clarté, la netteté et le sens des réalités ne sont pas vraiment vos points forts. Vous êtes comme une méduse dans la mer, vous vous laissez porter par le courant sans trop savoir où, comment et pourquoi. D'ailleurs, vous vous en fichez, n'est-ce pas? L'indifférence est aussi une de vos caractéristiques. Vous ne savez pas exactement ce que vous pensez ni qui vous êtes. Alors évidemment, il est difficile dans ce cas de rester fidèle à vous-même. Ce qui se traduit par de l'instabilité, de l'infidélité, vous n'êtes jamais sûr d'aimer vraiment quelqu'un et de l'opportunisme. Vous vous complaisez dans des psychodrames et êtes maître dans l'art de l'embrouille et la mythomanie délirante. Votre sensiblerie vous complique bien la vie. Comme les montagnes russes, vous passez de la transe mystique à la déprime la plus noire. Votre apparente douceur et générosité cachent un manque de fermeté et de caractère. Vous ne savez pas dire non. Vous coltinez tous les pauvres gens que personne ne veut côtoyer parce qu'ils voient en vous une bonne poire. Inutile de dire que vous n'avez aucune volonté et que vous n'êtes pas ce qu'on appelle un sportif.
Rendez-vous le mois prochain pour l'horoscope Bélier. Cher auditeur, chère auditrice, notre étudiant, dont le souhait premier était dernièrement de compter, veut avec exactitude et objectivité l'expérience malheureuse de la maigre barbe, a aujourd'hui convié une amie qui souhaite se confier. Rappelez-vous, par port du nez, il entendait évoquer avec sincérité l'imperfection dans toute sa contemporanéité, c'est-à-dire sa capacité à disparaître, à être effacée, que suscitée par la souris ou le scalpel. Anormalement proéminente et désagréablement crochue, cette protubérance disgracieuse, il l'avait longtemps considérée comme un vice, une faute. Bref, il était par ailleurs revenu pour révéler en direct un trouble physique, un poil gênant, un problème de taille, d'épaisseur, qui, il espérait, n'entamait en rien l'image que la gente féminine pouvait avoir de sa virilité. Maigre et mince, cet attribut physique avait tout au long de ses années lycée développé chez lui un grave complexe d'infériorité. Laissons un moment de côté les confessions passées et accueillons à présent une amie qui aimerait aujourd'hui mentionner l'inélégance qui la caractérise. Étrangement gonflée, malheureusement généreuse et outrageusement sensible aux ondes gravitationnelles, cet attribut informe et ingrat la place régulière dans une situation de complexe fort disconvenante. En plus de demeurer visuellement déplaisante, cette dystrophie semble d'un côté complexifier l'élocution et d'un autre l'éloigner le galant. Particulièrement grossière,
grasse, large, lourde et tombante. Elle sait son infirmité ingrate. L'évoquer semble la placer dans un certain inconfort. Cessons donc d'accentuer son malaise et écoutons-la.
J'ai un double menton et en vrai, je le vis très mal.
Cher auditeur, chère auditrice, c'était notre étudiante dont le souhait premier avait été dernièrement de compter avec exactitude et objectivité le port malheureux de la maigre barbe qui avait aujourd'hui convié une amie souhaitant, elle aussi, se confier. Rappelez-vous, par port du nez, il avait entendu évoquer avec sincérité l'imperfection dans toute sa contemporanéité, c'est-à-dire sa capacité à disparaître, à être effacée, que c'eût été par la souris ou le scalpel. Anormalement proéminent et désagréablement crochu, cette protubérance disgracieuse, il l'avait longtemps considérée comme un vice, comme un défaut. Il était par ailleurs revenu pour révéler en direct un trouble physique un peu gênant, un problème de taille, d'épaisseur, qu'il avait espéré n'eusse en rien entamé, l'image que la gent féminine puisse avoir de sa virilité. Maigre et mince, cet attribut physique avait tout au long de ces années lissé développer chez lui un grave complexe d'infériorité. Bref, nous avions laissé un moment de côté les confessions, passé et accueilli son ami. Cet ami avait de fait aujourd'hui souhaité mentionner l'inélégance qui la caractérise. Étrangement gonflée, malheureusement généreuse et outrageusement sensible aux ondes gravitationnelles, cet attribut informe et ingrat, la plaçant régulièrement dans une situation de complexe fort disconvenante, en plus de demeurer visuellement déplaisante, cette dystrophie semblait d'un côté complexifier l'élocution, et d'un autre éloigner le galon. Particulièrement grossière, grasse, large, lourde et tombante, elle avait son infirmité ingrate. L'évoquer semblait la placer dans un certain inconfort.
La cause de l'accident est encore inconnue, mais de nombreux témoins parlent d'un brouillard très épais.
Nous sommes de retour dans les studios de Radio Anne pour cette 32e édition Brouillage, nuage, brouillage.
Notre spécialiste Marc est en duplex avec nous pour nous expliquer les circonstances du naufrage du Titanic. Marc, pouvez-vous nous en dire plus sur ce mystérieux naufrage ? Est-ce en raison des conditions météorologiques ?
Les conditions météorologiques sur la zone étaient tout à fait banales en réalité. Il y avait de l'air froid qui descendait depuis le Grand Nord, depuis le Labrador, de l'air chaud atlantique et entre les deux, formation de brouillard. Terre-Neuve, c'est ici et c'est réputé pour les brouillards. Et en plus, il y avait des icebergs et à l'époque, rappelons-le, il n'y avait pas de radar, bien entendu, qui permettent actuellement de détecter ces icebergs même dans le brouillard.
Merci Marc. Et oui, effectivement, la technologie radar n'était pas encore au point. C'est d'ailleurs avec le naufrage du Titanic en avril 1912 que les chercheurs se sont penchés plus sérieusement sur le sujet. C'est seulement en 1935 que Robert Watson Watt dépose un brevet sur le radar. Il sera considéré comme l'inventeur officiel.
Accueillons tout de suite un membre du comité de vigilance brutaliste, professeur inégalé de gravure, protecteur des arts et des lettres, agent de tranquillité publique, caporal au 3e régiment d'hélicoptères de combat, David Liaudet nous livre ce soir sa nouvelle chronique corbusienne prenant la forme d'une trilogie new-yorkaise.
It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Bro,
broken glass everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skipped the life and tango. A silk on print to seem to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she can tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so diddy, she had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Me on King Kong, standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My son said, Daddy, I don't wanna go to school, cause the teacher's a jerk, he must think I'm a fool. And all the kids smoke reefer, I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart, gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw. Hear them say, you want some more? Living on a seesaw. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what? It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song, cause deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is took and you're a Maytag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell, till one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
Yo, Mel, you see that girl, man?
Yeah, man.
Yo, that sound like Cowboy, man.
Cool.
Yo, what's up, money?
Yo.
Hey, where's Quill and Raheem, man?
Hey, upstairs, cooling out.
So what's up for tonight, yo?
Yo, we can go down to the Fever, man.
Go check out Junebug, man.
Hey, yo, you know that girl, Betty?
Yeah, man.
My mom's got robbed, man.
Nah,
what? Again,
man.
She got hurt.
What just happened? What the
hell?
What's
going on? Fire free. Don't nobody move nothing. Y'all know what this is. Get him up. Get him up.
Yo, man, we down with Grand Master Flash and the Fury.
That's the problem. Is that a gang?
No.
Shut up. I don't hear your mouth. Shut up. So what's the problem?
You the problem.
Je dédie cette chronique à mon ami Claude Parent. 7 février 1986. Mike était américain, totalement. Il avait autant fréquenté les stades de football que les bancs de l'université du Maine. Il y faisait des études de biologie sans difficulté. Il faisait tout sans difficulté. Les études, le sport et même les rencontres. C'est d'ailleurs en ce que comprit rapidement Harvey, perdu dans la foule du pavillon américain des sciences à Seattle. Ils étaient venus là, tous les deux, pour des raisons bien différentes. Mike, pour suivre l'avancée de son projet de doctorat, ici représenté par son école et supervisé par son patron d'études, et Harvey, comme jeune étudiant en architecture, venant à son tour voir de visu les aménagements du stand réalisés par le directeur de son stage, l'architecte américain d'origine japonaise, Minoru Yamazaki. La nuit était tombée, les lumières puissantes mettaient en valeur l'étrange pergola de l'entrée, structure fine et légère comme une promesse d'architecture à venir. Harvey avait, entre autres, dessiné les arcs et calculé au plus juste la finesse des montants. Il était assez fier de son travail qui lui avait valu les honneurs d'une petite tape sur l'épaule de son directeur. Il circulait dessous, le nez en l'air, ce qui causa la rencontre avec Mike. Ils se cognèrent l'un dans l'autre. Mais la masse musculaire de Mike gagna sur le frêle Harvey qui trébucha. Relevé immédiatement par le footballeur désœuvré, Harvey dut pourtant reconnaître qu'il était bien le fautif. Il n'en fallait pas plus pour partager une bière au bar et se raconter chacun à leur tour leur raison d'être là. La vie. Maintenant, la masse musculaire de Mike était partie. On ne savait pas trop comment, à l'époque, cette nouvelle maladie agissait. Harvey le regardait fondre chaque jour un peu plus dans cette chambre de la clinique. Mais ce qui maintenait encore la présence de Mike à l'exact des souvenirs de Harvey, c'était ce sourire large qu'il réussissait à tenir malgré la douleur et la peur. Ils étaient venus tous les deux vivre en France en 1985, suite à l'installation d'une antenne du cabinet d'architecture dans laquelle travaillait Harvey. Ils y avaient vécu la vie des années 80, libres. Ils n'avaient alors qu'une raison d'avoir peur. Harvey avait pris l'habitude de lire tous les jours à Mike les pages du journal et il avait réussi à trouver à Paris un magazine de sport américain qui donnait tous les résultats des équipes de football. La liste infinie des scores des matchs faisait toujours venir ce large sourire sur le visage de Mike, certainement amusé par l'effort de Harvey à s'intéresser à ce type d'informations et à sa difficulté à prononcer les noms des joueurs et des équipes. Allongés tous les deux sur le lit malgré les recommandations des médecins ne savant que faire de cette nouvelle maladie, il arrivait souvent qu'on les retrouve endormis ainsi. On finit un matin par ne pouvoir réveiller que Harvey. Reprendre l'avion vers New York, prendre l'ascenseur. Sur le toit du World Trade Center, alors qu'un ciel bleu s'étalait sur New York, Harvey ouvrit largement une boîte de métal couleur bronze. Il avait choisi ce lieu parce que son architecte, le professeur Minoru Yamazaki, en était l'auteur et qu'il pensait que c'était bien ainsi de boucler la boucle dans le ciel de Manhattan. Un petit nuage se forma au-dessus de lui, comme une fumée délicate s'ajoutant aux cendres. Harvey n'y vit rien de symbolique, simplement la beauté du monde, la vie. Septembre 2001. Il y a le souvenir des cris, il y a le souvenir de saisir soudain qu'il se passe quelque chose d'incroyable, le désir de voir, voir, et nous avons vu. Nous avons vu que la nuit est grise, le brouillard dense, cet immense fluide incontrôlé, accompagne étrangement dans un ordre parfait l'écroulement des deux tours, semblant chuter à leur endroit, comme si l'architecte avait prévu cette chute, sur elle-même. Je me souviens que je n'ai pu m'empêcher d'analyser que cette fumée âcre, dont j'ai encore le goût dans la bouche, était faite d'un mélange étrange de papier administratif, d'ordre du tertiaire, de poussière de meubles, de moquettes usagées et surtout de corps apeurés, pulvérisés, se dispersant dans l'espace. La poudre d'une construction prend beaucoup de place, surtout quand la poudre en question est un tombeau. Comment parler ainsi d'architecture? Comment quelque chose d'aussi construit, d'aussi structurellement établi, ayant défié partout, depuis sa façade au plus profond de ses fondations, la pesanteur? Comment donc deux monolithes, aussi solides dans leur image, peuvent ainsi finir dans un nuage, un souffle, un brouillard, qui est l'image même de la fragilité, de l'impermanence, du mou et du vent. Comment comprendre et admettre que dans ces particules, le bâtiment se confond et même se lie avec l'eau, la chair, le sang de ceux qui le matin ont simplement pris un ascenseur? Comment, quand on est architecte, on vit cela? Comment on peut se relever d'avoir ainsi construit une disparition qui, malheureusement pour elle, ressemblait trop à un spectacle pyrotechnique? Comment ce nuage, fonçant vers les piétons, spectateurs sur le sol de New York, peut-il être respiré par les poumons des vivants? Comment penser que l'on va balayer cette poussière? Comment penser que ce qu'elle contient des êtres? Le World Trade Center était fier, puissant, ajoutant à sa rectitude parfaite la parfaite gémellité, donnant encore plus de raisons de fierté. Je me souviens que depuis le sol, on pouvait croire que les deux tours brillantes se touchaient au sommet et que de là-haut, on devait être au-dessus des nuages. Dans la skyline de New York, il manquera toujours pour moi deux gratte-ciel. D'ailleurs, ce mot gratte-ciel n'est pas très juste pour le World Trade Center. Il n'était pas question ici d'une irritation de l'épiderme du ciel, mais de deux pieux, fièrement plantés, arrogants, adolescents, turgescents même. Et la radicalité de leur architecture offrait bien une sorte de condensation des qualités et des exigences de la tour américaine. Égalité de surface, finesse, dédain et record de hauteur battue. Minoru Yamazaki avait compris que la finesse du vide entre ces deux tours était bien le plus important, une fente tendue pour faire passer les nuages. Minoru Yamazaki ne vit pas l'effondrement de ces deux tours, son chef-d'œuvre. Il mourut le 7 février 1986. Sans doute aura-t-il cru, comme tout le monde, qu'elles dureraient toujours. D'ailleurs, ne sont-elles pas inscrites à jamais maintenant dans l'histoire et même dans notre imaginaire collectif? Elles permettent en tout cas à tous, dès leur apparition dans un film, de se rappeler que nous sommes alors avant le 11 septembre 2001. Décembre 2011. Sur le site du groupe des architectes hollandais MVRDV, on trouve des excuses. Le groupe d'architectes hollandais s'excuse en effet de la similarité d'image entre son projet de tour et le nuage de l'explosion des tours du World Trade Center. La ressemblance est plus que frappante. On y voit bien un nuage comme réifié, solidifié, figé, accroché à deux tours jumelles pour un projet d'immeuble d'habitation. J'avoue que j'ai le cœur qui se serre et que je ne crois pas à cette coïncidence. Je crois fondamentalement que la pyrotechnie, que l'image de cette explosion ont fortement marqué les imaginaires. Je crois que malheureusement, certains ont regardé en boucle cette image d'un nuage chaotique, splendide, entourant la géométrie des tours. Je crois qu'il était aisé de vite penser qu'il était possible, pour en contrecarrer la fragilité et la disparition, de le maintenir ainsi dans ce projet appelé Cloud Yongsan, projet pour la Corée du Sud. Comment ne pas être écœuré devant l'obscénité d'une telle proposition? Comment prendre sa planche graphique et ainsi, pixel après pixel, réinventer la poudre de l'incendie et des corps calcinés pour en dessiner des appartements luxueux? Comment croire que cela ne résonne que par hasard? Comment penser que de l'image d'une catastrophe, on puisse inventer une architecture? On ne le peut que si l'on considère l'image, on voit bien à quoi cela tient, qu'il est impossible de croire que MVRDV n'ait vraiment dessiné cela qu'avec les arguments architecturaux qui sont ceux de la lumière, de l'espace et de la circulation. Au pied du projet de MVRDV, le graphiste a collé sur l'image informatique une jeune femme coréenne souriante, un appareil photographique à la main, venant sans doute retenir sur la surface sensible de son appareil l'immeuble tout juste sorti de terre, la nuée morbide, ici esthétisée. Sans doute qu'ainsi perpétue-t-elle le saisissement d'un acte de terrorisme devenu avec le temps une image, et que cette image vaut mieux par sa force baroque que la douleur de la réalité qui la porte. Alors, dans ce brouillard des raisons et des explications, dans les excuses maladroites, dans les regrets, mais aussi dans cette affirmation venue tout de même jusqu'au regard des survivants et de ceux qui ont perdu quelqu'un, je vois l'insondable bêtise humaine, la faiblesse de notre époque osant de tout faire œuvre d'art. Il y a avec certains brouillards, certaines nuits, certains souvenirs des êtres chers, qu'une seule chose à faire, faire silence.
Merci David pour cette nuit d'information, ce brouillard textuel. Invité en avril 2015 par la chaîne de télévision italienne Diretta Cité, le poète Eri De Luca a fait forte impression. Il a récité une prière laïque, selon ses termes, consacrée aux migrants qui a eu lieu dans le canal maritime entre Lampedusa et la Libye. Un bateau a fait naufrage, occasionnant la mort de plus de 800 personnes. La pire hécatombe jamais vue en Méditerranée. Déclaré les Nations Unies. Mare Nostrum, notre mère, c'est ce poème. Cette prière laïque, dite à la télévision par le poète lui-même, qui a servi de base à la composition de cette pièce musicale inédite de Philippe Langlois pour le prochain film de Bagnuela Morgren, Another World.
Mare nostro che non sei nei cieli. E abbracci i confini dell'isola e del mondo, sia benedetto il tuo sale, sia benedetto il tuo fondale. Accogli le gremite imbarcazioni, senza una strada sopra le tue onde. Pescatori usciti nella notte, le loro reti tra le tue creature, che tornano al mattino con la pesca dei naufraghi salvati. Mare nostro che non sei nei cieli, all'alba sei colore del frumento, al tramonto dell'uvia di vendemmia ti abbiamo seminato di annegati più di qualunque età delle tempeste. Mare nostro che non sei nei cieli, tu sei più giusto della terraferma, pure quando sollevi onde a muraglia, poi le abbassi a tappeto. Custodisci le vite, le visite cadute come foglie sul viale. Fai da autunno per loro. La carezza d'abbraccio, bacio in fronte di madre e padre prima di partire.
Mare Nostrum, notre mère qui n'est pas au ciel et qui embrasse les confins de l'île et du monde, béni soit ton sel, béni soit tes fonds. Accueille les bateaux surbondés sans une route sur tes vagues, les pêcheurs sortis la nuit, leurs filets parmi tes créatures, qui reviennent le matin avec la pêche des naufragés sauvés. Notre mère qui n'est pas au ciel, à l'aube tu as la couleur du blé, au couchant du raisin de la vendange, nous t'avons semé de noyers plus que tout autre âge de tempête. Notre mère qui n'est pas au ciel, tu es juste que la terre ferme, quand même tu élèves des vagues murailles, puis les abaisses en tapis. Garde les vies, les visites tombées, comme des feuilles dans l'allée, soit pour elles un automne, une caresse, une étreinte, un baiser au front, une mère, un père avant le départ. Eri De Luca, traduit de l'italien par Daniel Valin, musique de Philippe Langlois pour le film de Manuela Morgan, Another World.
Le brouillard, un épais linceul aveuglant. Son apparition fait trembler tous les hommes d'une crainte primitive. Il est responsable de spectaculaires catastrophes, sur mer comme dans les airs. Et quand le brouillard s'ajoute aux fumées créées par l'homme, il en résulte un smog meurtrier qui peut faire des milliers de victimes.
Et je vais maintenant vous lire un extrait du Chien des Baskerville de Sir Conan Doyle. Et je tiens à dédicacer cette lecture à Lucas Pastor, qui j'espère nous écoute ce soir. J'ai dit que dessus de la grande frontière de Grimpen s'étendait un voile de brouillard, épais et blanchâtre. Lentement, comme un mur mobile, bas mais épais, il se rapprochait de nous. La lune l'éclairait, lui donnant, avec la cime des pics éloignés qui émergeaient de sa surface, l'aspect d'une gigantesque banquise. Holmes se tourna de ce côté et laissa échapper quelques paroles d'impatience, arrachées sans doute par la marche lente, mais continue, du brouillard. « Il va nous gagner, Watson » fit-il en me le désignant d'un geste. « Est-ce un contretemps fâcheux ?»« Très fâcheux. La seule chose au monde qui pût déranger mes combinaisons. » »« Sir Henry ne tardera pas à partir maintenant. » Il est déjà 10 heures. Notre succès, et même sa vie à lui, dépend de sa sortie avant que le brouillard ait atteint ce sentier. Au-dessus de nos têtes, la nuit était calme et sereine. Les étoiles scintillaient, pareilles à des clous d'or, fixés sur la voûte céleste. Et la lune baignait tout ce paysage d'une lumière douce et incertaine. Devant nous se détachait la masse sombre de la maison dont les doigts dentelés, hérissés de cheminées, se profilaient sur un ciel teinté d'argent. De larges traînées lumineuses, partant des fenêtres du rez-de-chaussée, s'allongeaient sur le verger et jusque sur la lande. L'une d'elles s'éteignit subitement. Les domestiques venaient de quitter la cuisine. Il ne restait plus que la lampe de la salle à manger, où les deux hommes, le maître de séance, aux pensées sanguinaires, et le convive inconscient du danger qui le menaçait, continuaient à causer en fumant leurs cigares. De minute en minute, le voile opaque qui recouvrait la lande se rapprochait davantage de la demeure de Stapleton. Déjà les légers flocons d'ouate, avant-coureurs de la brume, s'enroulaient autour du rayon de lumière projeté par la fenêtre. Le mur du verger, le plus éloigné de nous, devenait invisible, et les arbres disparaissaient presque derrière un nuage de vapeur blanche. Bientôt, des vagues de brouillard léchèrent les deux angles de la maison. Elles se rejoignirent, la faisant ressembler à un vaisseau fantôme qui voguerait sur une mer silencieuse. Holmes crispa sa main sur le rocher qui nous cachait et frappa du pied dans un mouvement d'impatience. « Si Sir Henry n'est pas sorti avant un quart d'heure, le sentier sera en veille à son tour. Dans une demi-heure, il nous sera impossible de distinguer notre main du bout de notre bras. Si nous nous retirions jusqu'à l'endroit où le terrain se relève, insinuai-je. Oui, c'est préférable. À mesure que cette inondation de brouillard nous gagnait, nous fuyions devant elle. Maintenant 600 mètres environ, nous séparait de la maison. Et ce flot inexorable, dont la lune argentait la crête, nous repoussait toujours. Nous reculons trop, dit Holmes. Nous ne devons pas courir la chance que ce baronnet soit terrassé avant d'arriver jusqu'à nous. Restons où nous sommes, à tout prix. Mon ami se baissa et appliqua son oreille contre la terre. Merci, mon Dieu, fit-il en se relevant. Il me semble que je l'entends venir. Un bruit de pas précipité rompit le silence de la lande. Blottis au milieu des pierres, nous nous regardions avec insistance la muraille floconneuse qui nous barrait la vue de la maison. Les pas devinrent de plus en plus distincts et, du brouillard sorti, comme d'un rideau, l'homme que nous attendions. Dès qu'il se retrouva dans une atmosphère plus claire, il regarda autour de lui, surpris de la limpidité de la nuit. Rapidement, Sir Henry descendit le sentier, passa tout près de l'endroit où nous étions tapis et commença l'ascension de la colline qui se dressait derrière nous. Tout en marchant, il tournait à chaque instant la tête de côté et d'autre, comme un homme qui sent mal à l'aise.
« Attention !» cria Holmes. « Gare à vous, je l'entends !»
En même temps, je perçus le bruit sec d'un pistolet qu'on arme. Il s'élevait du sein de cette mer de brume un bruit continu, semblable à un fouaillement. Les nuées ne se trouvaient plus qu'à 50 mètres de nous et, tous trois, nous ne les perdions pas de vue, incertains de l'horreur qu'elles allaient nous vomir. Mon coude touchait celui d'Holmes, et, à ce moment, je levai la tête vers lui. Il était pâle, mais exultant. Ses yeux étincelaient à la pâle clarté de la lune. Soudain, ils devinrent fixes, et ses lèvres s'entr'ouvrirent d'étonnement. En même temps, Lestrade poussa un cri de terreur, et se jeta la face contre terre. Je sautai sur mes pieds, ma main inerte se noua sur la crosse de mon revolver. Je sentis mon cerveau se paralyser devant l'effrayante apparition qui venait de surgir des profondeurs du brouillard. C'était un chien. Un énorme chien noir, tel que des yeux de mortel n'en avaient jamais contemplé auparavant. Sa gueule soufflait du feu, ses prunelles luisaient comme des chardons ardents. Autour de ses babines et de ses crocs vacillaient des flammes. Jamais les rêves les plus insensés d'un esprit en délire n'enfantaient rien de plus sauvage, de plus terrifiant, de plus diabolique que cette forme noire et cette face féroce qui s'était frayé un passage à travers le mur de brouillard. Avec des bonds énormes, ce fantastique animal flairait la piste de notre ami, le serrant de près. Cette apparition nous hypnotisa à tel point qu'elle nous avait déjà dépassés. Lorsque nous revînmes à nous, Holmes et moi fîmes feu simultanément.
Partons dans le brouillage. Nikita nous livre ici Margot. Un brouillage d'extrait tiré d'une cassette qui lui faisait très peur lorsqu'elle était petite. D'un livre, Pomme d'Api, elle croit.
Maintenant, la tour est plus haute que Margot.
Dis donc, Margot.
Mais Margot ne répond pas. Encore un triangle. Margot se précipite. Rapide comme personne, elle arrive toujours la première au téléphone.
Allô? Allô? C'est Margot?
Je croyais que tu n'entendais rien dans la seconde tour. Donne-moi le téléphone, s'il te plaît.
Allô? Allô?
Donne-moi ce téléphone.
J'aimerais bien discuter au téléphone. Maman fronce les sourcils, pose un doigt sur sa bouche. Et elle le fait pour faire avec la main comme si Margot était allée plus loin.
Allez, va jouer avec ton
sac. Mais Margot n'a pas envie. Non. Des tentacules. Étonné. Ouvre sa voix pour continuer à discuter au téléphone.
Oh bah, bien sûr, oui.
Oh, Margot n'a pas rêvé. L'œuvre, les tentacules. Il faut qu'elle sache à tout prix qui est au bout du fil et qui retient sa maman.
Quand le brouillard se dissipa enfin, 4000 personnes étaient mortes de problèmes respiratoires. Les pompes funèbres n'avaient pas assez de cercueils pour enterrer les morts.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus, peuvent-ils être heureux? Qu'ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.
Francine est dans le brouillard. Francine ? Francine ?
Encore une fois, je sombre. Encore une fois, je sombre, porté par le tourbillon. Je sombre, malsain. Emporté par le tourbillon trop lassant. Contre le soir, contre je rêve. chose me manque. Qu'est-ce que j'ai donc à dire? Encore une fois, je tourne que j'ai froid, disque seul dans le noir. Que quelque chose me manque, que je suis seul dans le brouillard. Je tourne donc que j'ai froid toute seule dans le noir. Et il n'y a rien d'autre à faire, disque j'ai froid, que d'avancer quand même, sans rien.
Eh bien, Francine semble perdue dans le brouillard.
Bienvenue à Esbrouf, une émission riche en émotions et forte en péripéties.
À moins que ce ne soit l'inverse.
Dans laquelle nous vous envoyons planer au fond des océans et nager dans les grandeurs célestes.
À moins que ce ne soit encore l'inverse.
Au cas où vous l'auriez oublié, je suis Bastien.
Et moi, Paul.
Plus ou moins cet ordre.
Ce soir, non. Plus de boniment. Plus de boniment bon enfant, mais de l'intrigue à 100 à l'heure sous un déluge de cadavres de bière de la dernière cuite. Ce à quoi je vous lâche mon fond de lèvres tiède et qu'il me reste pour vous annoncer le thème de ce soir.
Qui est d'ailleurs...
Nuages, je crois.
D'accord, dans ce cas, nous...
Attends, brouillard, pardon.
Ok,
Ah non, brouillage. Brouillage, pardon.
Bon, t'es sûr, là, 100%?
Ouais, t'inquiète, ça baigne, c'est juste le bordel dans les fiches.
Ah ouais, j'avoue, ouais. Moi, c'est le fond de lèvres tiède aussi, ça fout le souk dans le crâne, c'est un peu chiant.
Ouais, bon, on y va?
Bah, pas le choix, hein. Esbrouf sur le thème du brouillard, ça... commence.
Pour bien commencer l'émission, qu'est-ce qu'un brouillage, Paul?
Alors, le brouillage est un petit élément de merde tout dégueulasse qui peut faire chier à cause d'interférences de...
Attends, tu te calmes, qu'est-ce qui te prend là?
Pardon, excuse-moi, c'est le fond de lèvres tiède. Donc, un brouillage est une émission de signaux électriques ou radio réalisés intentionnellement dans le but d'alimenter un récepteur comme un ordinateur, une radio ou un radar, de données fausses ou contradictoires.
C'est un peu comme ce qu'on fait, quoi.
Bah ouais. Par ailleurs...
Attends, c'est un peu comme les œufs. T'as les omelettes. Les œufs sur le plat et t'as le brouillage, les œufs le brouillage, quoi.
Par ailleurs, donc, okay. Il est possible que ces signaux soient émis non intentionnellement, provoquant ainsi des imprévus. Par exemple, à la radio, un super Pink Floyd est en train de passer pendant le trajet Caen Tourcoing. Quand soudainement, le passage de territoire entrecoupe le sublime Echoes de passage de Bella de Maître Gims.
Attends, mais pardon de te couper, Paul, mais c'est pas de l'interférence, c'est de l'hérésie.
Oui,
c'est...
certes, mais ça en revient à ce que je disais tout à l'heure, petit élément de merde, tout dégueulasse.
Ah ouais, c'est bon, ça fait sens. Bon,
ouais,
ok. Voilà. Info suivante, du coup.
Cette semaine, bon nombre de références faites à Charlie Hebdo apparaissent au sein de l'école des Beaux-Arts du Mans. Que ce soit « Je suis Lucas » ou « Je ne suis pas Luc » ou « Je ne suis pas machin » ou « Je suis bidule », on s'y perd un peu. Heureusement, Bastien est un spécialiste de la question et nous a fait part de son observation. Alors, je t'en prie, Bastien, c'est quoi ton opinion?
Eh bien, pour tout dire, je suis paumé.
Voilà, comme ça c'est dit, c'est clair. Passons à la suite.
L'artiste plasticien Anish Kapoor fait parler de lui aujourd'hui pour une acquisition tout à fait particulière. En effet, puisqu'il vient d'obtenir les droits exclusifs sur un matériau extrêmement étonnant qui absorbe plus de 99% de la lumière. Non, ce n'est pas de la merde, mais du vent à black.
Ouais.
Bien entendu, bon nombre d'artistes se sont offusqués de cette information insolite. Normal. Estimant qu'un matériau doit être utilisé et utilisable par tous. J'insiste, c'est toujours pas de la merde.
C'est pas de la merde.
Les foudres de la colère et de l'incrédulité se sont abattues sur lui. Il faut désormais espérer qu'à cause de cette petite histoire, l'artiste ne sombrera pas dans la chiasse. L'oublie pas.
Très belle touche d'humour noir, Bastien. Alors, à ce propos, John Cage a lâché une caisse tout à l'heure et personne n'a entendu ?
Oui, mais ça pue toujours. Info suivante.
Pour revenir sur l'affaire Je suis Lucas, il est important de noter que cette histoire a fait pas mal de bruit au sein même de l'établissement de l'ESBAM, en raison d'une caricature jugée de mauvais goût à l'encontre de Jean-Yves Lebon. L'auteur de ce dessin s'est retrouvé malgré lui dans un débat visant à déterminer l'importance et le rôle du respect dans la caricature, devant se justifier de son acte auprès de l'école à moult reprises. Son bras fer donc conclurait par une citation de ce... putain de merde...
Georges Abitbol.
Non, attends, elles sont toutes pourries les filles. Attends, ouais. C'est quoi ce bordel?
Patrick Timsit, non?
Non, pas, c'est pas... pas
Donald Trump.
Non, pas non, non, c'est pour putain de
merde. C'est quoi, Paul? C'est pas grave, la chute, c'est pas grave.
Ouais, non, mais sérieux, c'est important.
Il y en aura d'autres, putain.
Bon bah vas-y, allez, continue.
Voilà. Donc, les Américains ont désormais le choix entre le sida et le VIH, Donald Trump ou Hillary Clinton, hilarant comme situation. Perso, je m'en bats les couilles, je les laisse dans leur merde. Après, je dis ça, je voudrais pas que l'ambassade américaine en France devienne un no man's land rempli de mines anti-bougnoules.
Petit kit de traduction toutes langues confondues. Pour ce faire, il vous faut une tasse de thé et un Claude Lottier. Si vous n'en avez pas sous la main, attirez-le avec des traités sur la perspective. À bon entendeur.
Bon, ce matin, j'ai écouté la radio. Je ne vous dirai pas laquelle, parce que je ne veux pas faire marcher les concurrents aussi, pour une question de dignité.
Bah ouais.
Et j'ai appris que la musique de merde est un fléau pour l'humanité tout entière. Toute l'humanité, vraiment, tout entière, vraiment, toute. On ne me l'a pas dit, bien sûr, je l'ai deviné. Surtout, n'écoutez pas la radio. Ni la leur, ni la nôtre, parce qu'on raconte autant de merde que ces connards dans les studios Ibiza. On a franchement l'impression que ce sont des musiques pour McDo, ou pour les putains d'émissions de Valérie Damido. Maintenant, tenez-vous bien. Paul va vous dire un truc très intéressant.
Un truc très intéressant.
Oh putain, fais pas ton intéressant, y'a rien d'intéressant.
Bon, d'accord. La communauté du corps enseignant de l'ESBAM s'est réunie aujourd'hui à Foncombe, dans le but de décider du sort des cours théoriques. Il en est sorti que la théorie ne pouvait être détruite par aucun moyen en notre possession, mais qu'il fallait jeter sa carcasse dans l'abîme flamboyante dans laquelle il est
mais
apparu...
Mais qu'est-ce que tu racontes comme merde, putain?
Quoi?
Tu racontes quoi?
Ah oui, merde! Ah oui, putain, je suis con! Oui, mais l'anglais, c'est la chronique ciné et...
Cinéphile, d'accord.
Oui, attends, oui, voilà. Attends, je rectifie. Sauron a réuni ses forces du mal dans la salle polyvalente de l'école des Beaux-Arts du Mordor, ce qui constitue une menace pour la terre des artistes libres du milieu. L'anneau joue un rôle considérable dans la poursuite des études théoriques. Voilà pourquoi il est important que Frodon Sacquet puisse garder ses enseignements cachés, de les mettre en sûreté.
Voilà, c'est mieux. Bon, plus sérieusement, réunion demain en amphi avec Gandalf. N'oubliez pas de lire ses mails, il nous expliquera comment détenir l'anneau.
Oui, très important.
Sur ce, je vous laisse. Ma lèvre devient très chaude.
Ouais, pareil pour moi. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous dire
bonsoir et bisous.
Merci Bastien et Paul, on vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique.
Vous pouvez en attendant liker leur page Facebook Esbrouf, E-S-B-R-O-U-F-F-E. When you can't see ahead, you're lost and afraid. Gotta believe, be strong, and just hold on. Your heart will light the way.
Notre 32e émission Radio On spéciale brouillard, nuages, brouillage prend fin. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que vous avez appris de nombreuses choses.
Nous remercions Zoé et Nikita pour la technique et Thomas pour la supervision. Merci à Corée et à Pierre-Marie pour l'habillage sonore.
Merci à Philippe Langlois pour la coordination de Radio On.
Merci à tous les participants de cette émission.
Merci à Pauline pour la photographie.
Merci à toi Léa pour la direction d'antenne, la communication et la voix au micro.
Merci à toi Jeanne pour la direction d'antenne, la communication, l'affiche et la voix au micro.
Et merci à vous, chers auditeurs.
On se retrouve le mois prochain pour la 33e émission de Radio On.
En attendant, vous pouvez réécouter les podcasts des émissions sur notre site www.radio-on.org.
Et likez notre page Facebook Radio On.
Mais nous serons toujours hantés par la beauté fantomatique du brouillard naturel. Dans notre monde toujours en mouvement, le brouillard peut immobiliser tout ce qu'il recouvre de son épais manteau. Pourtant, le brouillard permet à la vie de se développer dans les régions les plus lointaines et les plus inhospitalières de notre planète.
Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa, le papa, le papa pingouin, le papa pingouin, quand vivait sur sa banquise, avec du beurre de vin, le papa pingouin, papa pingouin, le papa, le papa, le papa pingouin, le papa pingouin, vivait sur sa banquise.